Les manettes à la baguette sur RCN, Yoann Turpin.
Bonjour et bienvenue dans votre émission qui parle de musique, de jeux vidéo, de films et de séries. Ah, quel plaisir de vous retrouver après cette pause bien méritée des vacances scolaires. Certains ont pris le soleil, un peu, beaucoup. D'autres se sont alcoolisés, un peu, beaucoup. Certains se sont même rendus coupables d'actes ou bien répréhensibles ou bien héroïques, pourquoi pas. Ou même un mélange des deux, un peu, beaucoup, le tout dans des décors paradisiaques, sur des îles lointaines, à la mer ou sur les flots. Mais tiens, tiens, cela me rappelle furieusement une catégorie de personnages bien connus de nos écrans. Allez, allez, on se creuse les méninges pour cette rentrée. Un seul symbole incarne tout ce que je viens de coupablement vous citer dans cette introduction. Eh ben, c'est les pirates. Pour cette saison 2 des manettes à la baguette, je voulais démarrer un peu comme j'avais démarré notre aventure en saison 1. Si nous avions décidé de faire un tour du côté de la mode des Vikings, il faut rendre l'appareil aux pirates qui se disputent avec nos amis barbares le même phénomène d'engouement autour de grandes licences numériques visuelles. Et ça tombe bien, c'est ce dont nous allons parler dans ce 11e épisode. Bon, démarrons avec du jeu vidéo. Connaissez-vous la licence des Assassin's Creed? Si ce n'est pas le cas, sachez qu'il s'agit d'un énorme succès mondial, démarré en 2007, édité et développé par Ubisoft, avec ses concepteurs de génie, Jade Raymond, Patrice Désilets et Corey May. Dans ce jeu vidéo, on suit les tribulations d'un assassin et ses incarnations dans le passé grâce à une machine nommée l'Animus, qui permet de lire la mémoire génétique d'un sujet. On peut ainsi explorer divers lieux et époques du passé. On peut alors se retrouver durant la Troisième Croisade, ou bien la Renaissance, la Révolution Française, ou encore l'ère Viking. Eh oui, encore eux. Il faudra attendre cependant le quatrième jeu, en 2011, pour que la licence se préoccupe du monde des pirates, plaçant idéalement le contexte historique du jeu au XVIIIe siècle. Ce jeu d'action-aventure, et surtout infiltration, puisqu'il s'agit d'une guilde d'assassins, est sorti à l'époque sur PlayStation 3, Xbox 360, puis des versions PlayStation 4, Xbox One et Wii U sont apparues par la suite. C'est le très prolifique Brian Tyler qui va se charger de la musique. Compositeur pour le film et le jeu vidéo, il a étudié à Harvard et sa passion lui a été transmise par son grand-père. Je souligne qu'on lui doit les quelques génériques que vous connaissez très bien sans le savoir, par exemple le thème des studios Universal Pictures, adapté de celui de Goldsmith, ou encore le thème de Marvel Studios que l'on entend dans tous les films Marvel depuis la phase 2 du Marvel Cinematic Universe. L'année dernière, vous avez pu entendre son travail dans le film Scream, cette année encore dans Scream 6, et comment ne pas citer le grand succès Super Mario Bros. Le film, qui fait partie de son catalogue et qui est sorti très récemment. Bref, pour Assassin's Creed Black Flag, ou le drapeau noir, Brian Tyler reprend de manière classique les codes de l'aventure caribéenne. Des cordes de violon ou d'alto, des mandolines, beaucoup de percussions entraînantes, comme s'il fallait souquer pour sauver sa vie avec des mélodies épiques qui ne trahissent ni le risque ni l'audace. Il faut vous dire qu'en 2003 était déjà passé le raz-de-marée Pirates des Caraïbes, dont nous reparlerons plus tard, et il fallait bien du courage pour proposer une partition originale après le massif succès de Hans Zimmer. Nous allons donc écouter une piste issue de la bande originale d'Assassin's Creed 4 avec le titre Pirates Beware, embarquez à vos risques et périls. Ah, remontons un peu plus loin dans l'histoire et sans animus, car qui dit pirate et jeux vidéo pour un homme de ma génération dit forcément Monkey Island. Une célébrissime série de jeux vidéo pour PC, dit point and click, comprenez pointer et cliquer, en gros c'est des enquêtes et des énigmes, une série qui remonte à 1990. On doit ce jeu humoristique au merveilleux développeur qu'était LucasArts, oui, lié à George Lucas de Lucasfilm, dont la société mère est aujourd'hui Walt Disney Company. Développé par LucasArts, disais-je, mais créé par le merveilleux Ron Gilbert, qu'on retrouvera sur les deux premiers opus en chef de ce projet, et que reviendra plus de 30 ans après pour le sixième opus et le plus grand bonheur des fans. Le nom de ce jeu est celui d'une île mystérieuse, repère du fantôme le Chuck, et que on ne peut atteindre que grâce à un typhon vaudou. Dans ce jeu qui fleurbond la parfaite maîtrise artistique pour l'époque, on retrouve des dessins et des graphismes colorés très soignés avec un gameplay parfaitement maîtrisé jusqu'à une narration vraiment drôle et riche. Pour la partie musicale, on retiendra surtout du trio de compositeurs aux baguettes, le talentueux Michael Land, qui est notamment responsable des accents reggae de la série des Monkey Island. Il co-signe la série en 1990 et revient en 91 pour sa suite, puis adaptera les musiques de John Williams pour le jeu Indiana Jones and the Fate of Atlantis en 92, Star Wars The TIE Fighter en 95 et de nouveau sur Monkey Island en 97, 2009 et 2022 tout récemment. Pour cet épisode, j'ai choisi la version réorchestrée de l'édition spéciale, avec son thème principal et celui d'un bar de pirates nommé Scum Bar, une référence au système Scum, acronyme de Script Creation Utility for Maniac Mansion, le premier jeu de Ron Gilbert et son moteur développé en collaboration avec Eric Wilmender en 1987 pour Lucasfilm Game. On écoute ces deux thèmes. Détour du côté des séries maintenant. Écoutez plutôt. Il fut un temps où Gold Roger était le plus grand de tous les pirates. Le roi des pirates était son surnom. À sa mort, son trésor d'une valeur inestimable, connu sous le nom de One Piece, fut caché quelque part sur Grand Line. De nombreux pirates sont partis à la recherche de ce trésor, mais tous sont morts avant même de l'atteindre. Monkey D. Luffy rêve de retrouver ce trésor légendaire et de devenir le nouveau roi des pirates. Après avoir mangé un fruit du démon, il possède un pouvoir lui permettant de réaliser son rêve. Il lui faut maintenant trouver un équipage pour partir à l'aventure. Eh bien, tel est le synopsis du célèbre manga One Piece et de son adaptation télévisuelle, ce que l'on appelle un anime, et qui bat le pavé depuis 1999 jusqu'à aujourd'hui. On peut évidemment faire un lien avec l'actualité en rappelant que One Piece a été récemment adapté en live action par Netflix, ce que la plateforme avait déjà fait en matière d'adaptation manga, avec Fullmetal Alchemist, Death Note, Cowboy Bebop ou Bleach, avec, avouons-le, plus ou moins de succès. Mais nous soulignerons que lorsque Netflix se penche sur un manga, c'est que celui ne démérite pas sa notabilité. C'est pas moins de 1070 épisodes que compte cette série qui tente de coller le plus fidèlement au manga initial, retirant même ses droits de diffusion quand la censure est trop forte pour ne rien trahir de son intrigue. Pour l'extrait qui va suivre, j'ai choisi de vous faire entendre, et c'est une tradition installée depuis notre première saison, l'opening de la série, comprenez son générique. Opening, dis-je, terme que l'on emploie pour les séries animées japonaises. Si One Piece avale à elle seule une infinité de compositeurs et musiques différentes, c'est réellement Koei Tanaka et Shiro Hamaguchi qui sont à la baguette de la part la plus importante de cette bande originale. Ici, c'est le chanteur Hiroshi Kitadani qui nous interprète We Are de One Piece saison 1.
You wanna be my friend? We are
Autour de Disney maintenant. Oui, mais un an avant Pirates des Caraïbes. Je vous parle d'un long métrage classique d'animation Disney, le 43e pour être précis, et aussi malheureusement un beau plantage en règle et un échec cuisant pour la firme aux oreilles de Mickey, puisque le film ne rapportera que 110 millions de dollars pour 140 investis. Pourtant, il est une adaptation originale du merveilleux et absolument reconnu roman de Robert Louis Stevenson, à qui tous les pirates doivent leur renommée, le célèbre L'île au trésor, sorti en 1881. Ron Clements et John Musker, les réalisateurs de légendes à qui l'on doit les plus grands succès d'animation de Disney, choisissent pour cette adaptation de déporter l'histoire dans un univers steampunk et spatial où Jim Hawkins, le héros, va fréquenter des cyborgs, des espèces humanoïdes, entre autres pirates, évidemment. C'est le grand James Newton Howard qui va composer la musique de ce Disney qui ne se distingue pas comme une comédie musicale, peut-être une des raisons du désamour du public pour ce long métrage d'animation. Quoi qu'il en soit, James Newton Howard s'acquitte de la tâche en respectant à la fois l'univers science-fiction et les marqueurs stylistiques de la musique pirate pour souligner, comme tous les grands compositeurs, l'action à l'image et les interactions de chacun. Bon, ce sera certes une défaite financière, mais quand on sait cependant que Disney un an plus tard va l'essuyer d'un grand revers de la main avec le même thème pirate cette fois-ci mais en film, on se rassure. Pour le moment, nous écoutons le très beau titre Silver Leaves que l'on entend à la fin de ce long métrage d'animation tiré de la bande originale de La Planète au Trésor.
Thank you.
RCN, les manettes à la baguette, Yoann Turpin.
Puisque nous avons évoqué un échec, je vais me permettre d'en relater un autre célèbre et toujours sur le thème des pirates, thème visiblement bien difficile d'adapter à l'écran pendant les années 90 et le début 2000. Cet échec-ci sera tellement catastrophique qu'il va précipiter la faillite de la société de production Carolco Pictures. Il s'agit du film L'île aux pirates ou Cutthroat Island, l'île coupe-gorge de 95, un film d'aventure franco-américano-germano-italien de Reni Harlin. On y suit une femme pirate, Morgan Adams, à la recherche du trésor de son grand-père. Si le film a un développement chaotique, une production très compliquée et se distingue comme un des pires échecs critiques commerciaux de l'âge d'or des films d'Hollywood des années 90, sa musique en revanche fait figure de maître étalon en matière de ce qui se fait de mieux en aventure pour l'époque. Le symphonique de Londres, que vous avez beaucoup entendu dans notre émission, sera ici dirigé par John Debney. Fils du producteur des studios Disney, on compte dans la carrière de Debney par la suite les musiques des films d'Iron Man 2, Predators, La Passion du Christ, d'ailleurs pour lequel il sera nominé aux Oscars, Cusco, L'Empereur Mégalo ou encore Sin City et Souviens-toi de l'été dernier. En 95, sa partition pour L'île au trésor est la seule à se hisser en dehors de cet échec de production. Musique particulièrement reconnue, elle sera même comparée aux travaux d'Erich Wolfgang Korngold et considérée comme la meilleure du genre depuis longtemps. Je ne pouvais donc pas la passer sous silence pour notre 11e épisode. Voici le thème principal du film Morgan's Ride par John Debney.
Thank you.
Allez, je remonte un peu plus loin avec Disney toujours. Décidément intéressé par les pirates depuis longtemps avec un live action, dirions-nous aujourd'hui. Mais il n'était pas si évident en 1950 pour Disney de faire un film en prise de vue réelle, ce qui montrera sa volonté de diversification. Je vous parle ici de la première adaptation de Disney du roman de L'île au trésor de Louis Stevenson, pour vous faire écouter un peu l'origine de tout ceci. La source, ai-je envie de dire. En réalité, il s'agit pour moi d'un odieux prétexte pour vous faire écouter la musique de Clifton Parker, compositeur britannique, né en 1905 et mort en 89. Bien que reconnu dans les musiques de films et de téléfilms, son catalogue peut s'enorgueillir de musique de scène, musique vocale et musique de chambre. Il s'inscrit dans la tradition esthétique des années 50 et aura participé à l'essor grandissant de la musique savante à l'écran. Voici donc son thème principal de L'île au trésor et la présentation de l'amiral Benbow, interprété par le Walt Disney Studio Orchestra dans une version remasterisée. Hi-ho, Moussaillon! Retour aux jeux vidéo avec la licence Zelda. Ah oui, je sais ce que vous allez me dire, ça fait longtemps qu'ils nous avaient pas cassé les pieds avec Zelda. Sauf que, détrompez-vous, il y a bien un épisode qui exploite les pirates, la mer, les îles et leurs trésors. C'est Zelda Wind Waker sur GameCube, sorti en 2002 en décembre au Japon et 2003 chez nous, et c'est le 10e jeu de la licence et le 3e avec la 3D. Le contexte des îles et du vent pour se diriger fait souffler une nouveauté bien vue pour Link à cette période, le héros et toute la mythologie d'Hyrule. Dans cette mouture réalisée par Eiji Aonuma, mais toujours produite par Shigeru Miyamoto, l'esthétique est en cel-shading, un découpage proche du dessin animé, et l'animation est très crayonnée pour le coup. Pour accompagner la direction musicale et artistique de Koji Kondo que je ne présente plus dans les manettes à la baguette, on retrouve Hajime Wakai, Kenta Nagata et Toru Minegishi, un habitué des musiques de Pokémon, Super Mario, The Legend of Zelda sur Wii ou des portages sur Super Mario Nintendo DS. Pour vous emmener un peu plus loin dans l'univers de Zelda Wind Waker, j'ai choisi de vous faire entendre le titre Dragon Roost Island dans une reprise orchestrale d'Andrew Skitt, certes compositeur mais très grand arrangeur britannique et aficionado de la direction d'orchestre pour l'image. Ici, il dirige sa version arrangée du thème avec le London Philharmonic Orchestra en 2012. Alors laissons-nous un peu dériver. Jeux vidéo toujours, plus récemment en 2018, avec un petit succès dont on pouvait voir énormément de parties jouées sur Twitch avec le jeu Sea of Thieves, un jeu d'action multijoueur et coopératif en vue subjective, comprenez par là la première personne. Dans ce jeu, on parcourt en tant que pirate un monde ouvert, absolument immense, à bord d'un bateau pirate donc, chacun pouvant s'occuper des différentes tâches afférentes à ce genre de voyage. Quêtes à accomplir, butins à récupérer, batailles, le jeu regorge de soubresauts qui tiennent en haleine les joueurs et les font participer aux aventures piratesques pensées par le génial studio de développement Rare. Et puisqu'il s'agit de Rare, c'est évidemment Robin Binland qui va se coller aux musiques qui sont, à n'en point douter, dans la tradition folklorique, qui sent bon le rhum de contrebande et les affres du scorbut. Vielle à roue, fiddle, mandoline et envolée plus lyrique sont au menu, dans un bel hommage à Pirates des Caraïbes, évidemment. Nous écoutons Maiden Voyage, tenez bon la barre, matelot. Très bien, très bien. Bon, j'arrête d'ergoter. Je vais parler de Pirates des Caraïbes. Notez bien que je n'ai rien contre ce film ni contre sa musique qui est à n'en point douter un succès planétaire. Qui ne connaît pas le célèbre thème dans Zimmer ? Oui, d'accord. Mais je vais profiter de mon émission et de cette heure d'antenne pour rendre à César ce qui appartient à César. Figurez-vous bien que le matériel original de Pirates des Caraïbes n'a pas été composé par le grand Hans Zimmer Sensei, mais par un de ses collaborateurs le plus fidèle et le plus injustement méconnu pour son œuvre originale. Je parle de l'allemand Klaus Badelt, compositeur du premier Pirates des Caraïbes en 2003 pour La Malédiction du Black Pearl. On le retrouvera après 2008 dans beaucoup de productions françaises, notamment dans les thrillers, Pour elle, À bout portant ou encore dans les films Le Petit Nicolas ou encore Astérix et Obélix au service de Sa Majesté, L'Arnaque, L'Immortel, La Guerre des Boutons ou le récent Superchondriaque de Danny Boone. Bref, si la série de films Pirates des Caraïbes a pu décoller, c'est en grande partie grâce au travail de Klaus Badelt depuis les studios de Hans Zimmer à Santa Monica. Voilà, c'est dit. Maintenant que j'ai posé ça ici, on va pouvoir écouter le célébrissime thème Jack Sparrow, composé par Hans Zimmer dans la suite Le Secret du Coffre Maudit en 2006. Ah, quelle mode alors ! Qui n'a jamais vu un cosplay de Jack Sparrow en convention ou dans les rues d'ailleurs, génialement repris de l'attitude et du charisme nonchalant de Johnny Depp ? Moins facile à la ville qu'une barbe ou des tatouages de viking, je ne sais cependant qui l'emporte dans cette bataille de style. Enfin bon. Thank you. Encore un dernier pied dans les séries. Connaissez-vous l'excellente Black Sails, série dramatique télévisée américaine, diffusée de 2014 à 2017. On y suit les péripéties du capitaine Flint durant l'âge de la piraterie, 20 ans après les événements relatés dans le roman L'île au trésor, dont on a beaucoup parlé. Puisque Flint va rencontrer d'ailleurs des corsaires illustres ayant réellement existé comme Jack Rackham, Anne Bonny ou encore Charles Vane. Si la série est d'excellente facture, à la baguette c'est le formidable Beer McCreary qui signe la bande originale du show. Et c'est assez formidable car je peux faire un lien avec le tout premier épisode de la saison 1 des Manettes à la baguette puisqu'il a signé la bande originale des deux itérations de la série de jeux vidéo God of War sur les Vikings. On peut dire que la boucle est bouclée. Pour Black Sails, la musique de McCreary se veut résolument plus moderne et originale que ses collègues en la matière. On y entend de la guitare électrique, plus de percussions et un rapport bien plus brut aux textures musicales ainsi qu'aux formes. C'est ce que nous allons entendre dans le thème principal de la série Black Sails. Et ça clôturera notre 11e épisode, le démarrage de la seconde saison des Manettes à la baguette, qui fut un grand plaisir pour moi, pour vous retrouver avec cette rentrée qui se promet riche en émotions. Cet épisode était dédié à Milady Nira qui n'a rien à envier aux pirates et qui se reconnaîtra. N'oubliez pas de jouer et surtout d'écouter et de faire les deux en même temps.